RCF.
Gabriel Ringlet, pour poursuivre notre dialogue autour de la célébration, à partir de votre livre « La grâce des jours uniques » paru chez Albin Michel, je vous propose de prendre le temps d'évoquer plusieurs âges de la vie, parce que vous le faites dans le livre, plusieurs moments phares. Commençons avec la grâce des commencements, la naissance. Vous dites que ça, c'est à célébrer tout le temps.
Tout à fait. Moi, je suis très 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 heureux quand je dois célébrer la naissance, y compris parce que j'y ai été confronté à plusieurs reprises, la naissance dans des circonstances difficiles.
Oui,
par
vous
exemple,
racontez.
Les prématurés. C'est une médecin, grande spécialiste des naissances prématurées, qui m'a beaucoup appris, qui m'a dit qu'avec ces tout petits bouts qui vont naître beaucoup trop tôt et pour lesquels la santé est vraiment en danger, il faut qu'on leur parle, il faut qu'on leur chante, il faut qu'il y ait un véritable rituel quand ils sont encore dans le ventre de leur maman. Mais c'est vrai aussi pour le bébé qui va arriver à terme de manière plus classique.
Mais alors, vous, en tant que prêtre, comment vous participez à la célébration de la naissance d'un enfant? Parce qu'il y a le baptême, vous en parlez après, mais la naissance...
Mais j'ai eu la chance, j'étais pendant 10 ans aumônier d'hôpital. Aujourd'hui, je travaille en soins palliatifs, en plus de mon prieuré et de mes livres. Et il arrive que dans certaines familles, ou que certaines femmes aussi qui sont seules et qui ont été en grande difficulté, fassent appel au moment de la naissance pour qu'il y ait un rite qui soit posé, y compris dans des circonstances très très difficiles, puisque je commence le livre en racontant le fait que j'ai été amené, je m'y attendais absolument pas du tout, à me trouver devant un avortement thérapeutique, et où c'était absolument dramatique, cet enfant qui allait être perdu, parce qu'il était dans un état de santé épouvantable. Mais moi, je n'étais pas là pour la question éthique que cela posait. J'étais là pour voir comment accompagner une situation aussi tragique. Et je vous assure que pouvoir poser des rites, pouvoir disposer de ce tout petit être qui n'est pas encore un bébé, mais qui n'est pas un objet, qui est là dans cet entre-deux, pouvoir célébrer, pouvoir l'emporter comme nous l'avons fait, l'inhumer, le déposer dans une crypte veillée, créer vraiment tout un rituel. J'en suis encore très 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 marqué aujourd'hui, toute mon équipe aussi, la personne qui était concernée par cet événement, bien entendu, ça l'a beaucoup aidé à traverser ce choc immense. Mais je suis en train de raconter quelque chose de difficile pour dire qu'on peut y mettre de la légèreté. Mais évidemment et heureusement, la naissance est souvent très 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 joyeux, et Dieu sait si nous avons carte blanche pour faire des choses magnifiques autour du baptême.
Oui, vous en parlez dans le livre, vous dites que tout commence par le signe du baiser.
Ah oui.
Alors, embrasser l'enfant ?
Oui, embrasser l'enfant, le signer. Je parle du signe du baiser comme d'une signature fondamentale. Je pense que l'enfant est comme un parchemin, et que d'une certaine manière, nous devons le griffer au beau sens du mot. Et je viens encore de le vivre il y a 15 jours. Les mamans, il y en avait deux bébés, les mamans ont fait circuler dans le cercle cet enfant, et chaque fois qu'on arrivait devant quelqu'un, il baisait l'enfant, il le caressait, il le signait. C'est toujours de cette manière-là que j'ouvre le baptême.
Avec le prénom de l'enfant qui est prononcé. Vous dites,
oui,
que c'est extrêmement aussi important.
Ah, c'est un enracinement, c'est tout à fait fondamental. Et Dieu sait si cet enfant que nous appelons déjà avant qu'il ne soit présenté au baptême, il est important de l'appeler, de le nommer rituellement. Je travaille beaucoup au fait que la nomination « Tu es Rebecca », Tu es Robin, soit proclamé pendant le baptême, et je le fais surtout avec des enfants. Les tout petits viennent près du bébé, quand c'est un bébé, prononcent le prénom en évoquant un souhait. Tu es Robin, et je souhaite que tu puisses jouer de l'accordéon, etc. C'est extraordinaire, hein, vous avez 7-8 enfants autour de vous qui qui vont prendre ce rituel très très au sérieux, ce rituel de la proclamation du prénom.
Mais il y a une forme d'inventivité à vous écouter, possible, toujours possible.
Il faut, rien.
Mais pourtant, elle s'exerce peu.
Mais je ne comprends pas pourquoi.
Quand on va dans les baptêmes, les mariages.
Mais je ne comprends pas pourquoi, parce que ce n'est pas du tout la liturgie officielle qui nous en empêche.
Ah, alors ça c'est clair.
C'est énervant, si vous voulez. C'est qu'il ne faut pas aller incriminer la liturgie dans son texte, dans son prescrit. À partir du prescrit classique, nous avons une très très grande carte blanche, mais il faut la saisir. C'est la même chose dès que l'on se sert de l'eau pour baptiser l'enfant. On a des tas de possibilités pour que ce soit un peu original.
Mais alors pourquoi on reste au codage, aux choses bien...
Mais je me demande parfois si on prend cette démarche liturgique, célébrationnelle...
Au sérieux ?
Suffisamment au sérieux, comme si c'était quelque chose de secondaire, alors que c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Dans le baptême que je viens de vivre, nous avions demandé, on était une quarantaine, nous avions demandé à tous ceux qui participaient d'apporter un petit peu d'eau du lieu où ils avaient été en vacances. Et... les uns avaient apporté de l'eau de la mer du Nord, d'autres de la petite rivière qui passe derrière chez eux ou d'un étang. Et chacun, rituellement, venait dans la grande cuve baptismale verser l'eau. Il y avait des eaux d'une quinzaine de provenances. Mais quand j'ai baptisé les enfants, en mélangeant toutes ces eaux et en les bénissant, c'était absolument inouï. Les gens étaient bouleversés par ce mélange des eaux qui devenait de l'eau bénite. Et tous ont voulu d'ailleurs en emporter à la maison, après le baptême, pour avoir cette eau chez eux. Et il s'agissait de deux jeunes couples de 30 ans qui ne mettent pas les pieds à l'église, hein, et qui disaient « Mais c'est extraordinaire de baptiser notre enfant. Je crois que c'est lié au renouvellement des rites. »
Gabriel Ringlet, beaucoup de personnes frappent à la porte de l'église pour demander le baptême encore, même des gens qui ne pratiquent pas. C'est une occasion justement de les inviter.
Ah, je trouve, et c'est une magnifique catéchèse aussi. Prenez le rite de l'huile. Même les chrétiens pratiquants ne savent plus toujours pourquoi on met de l'huile sur l'enfant au moment du baptême.
Alors pourquoi le fait-on ?
C'est quelque chose de merveilleux. Quand Samuel cherche un roi et qu'il arrive chez Jessé, que Jessé présente tous ses garçons et que Dieu lui souffle dans l'oreille, non, pas celui-là. Puis il lui dit, t'as pas encore un petit garçon là quelque part ? Il lui dit, si, il y a David. Et donc on amène le petit David, Samuel va prendre une corne d'huile et la verser sur cet enfant pour le faire roi. Il va l'oindre. Et bien que depuis 2000 ans, que dans sa tradition, l'Église ait gardé ce rite, à savoir que chaque enfant ou adulte que nous présentons au baptême est un petit roi, est une petite reine. Dieu sait si c'est précieux. Eh bien, quand vous dites cela, les gens sont tout à fait étonnés. Donc, le rituel est on ne peut plus classique, c'est dans le texte, ce rite de l'huile, mais il faut expliquer d'où il vient.
Donc il y a un manque d'explication aujourd'hui. On poserait les gestes comme si c'était su, connu, pas besoin d'y revenir.
Oui, mais attention, hein, il y a un piège aussi dans le mot explication, même si je l'ai employé moi-même. Il faut toujours qu'on soit dans le récit. Il ne s'agit pas de dire, comme je l'ai vu par exemple à des ordinations sacerdotales, où il y a un commentateur qui dit « Et maintenant l'évêque va faire ceci parce que ça prouve que nous n'avons plus la mémoire de tout cela et qu'il faille nous l'expliquer, ça c'est un grand problème. La liturgie, la célébration, elle peut raconter Ce que je viens de dire sur Jessé, Samuel et David, c'est un récit. On peut raconter une histoire, mais il ne s'agit pas d'expliquer au sens pédagogique péjoratif du terme.
C'est là où on retrouve l'idée que le rite est vivant et qu'il nous rejoint corps et âme et cœur et qu'il se passe quelque chose.
Tout à
il
fait.
Il nous touche.
Absolument.
Il nous remue, il nous habite, il nous nourrit.
Et c'est très universel. Prenez toujours au baptême le rite de la lumière, par lequel on clôture les gestes qui sont posés. Moi, je mets toujours, bien sûr, le cierge pascal, et puis j'achète deux magnifiques cierges que je vais faire graver au prénom de l'enfant, que je remets au parrain et à la marraine, en leur disant « Vous vous engagez à sa place aujourd'hui, un jour il prendra le relais, vous lui remettrez cette lumière-là, il en fera sa lumière, j'offre des lanternes, vous savez, des lanternes magiques aux parents pour qu'ils aient aussi une lumière qui leur soit propre et chaque assistant reçoit un petit luminaire. Et quand à partir du cierge pascal, vous allumez les deux cierges des parrains et marraines, vous allumez les luminaires des parents et les petits luminaires des participants,
c'est signifiant.
Et que ça fait une gerbe de lumière autour du gosse, mais c'est signifiant, c'est émouvant, c'est très très beau et chacun a parfaitement compris pourquoi cet enfant était lumière parmi nous et en quoi on le reliait au cierge pascal.
Et il n'y a pas besoin d'expliquer.
Voilà.
C'est vivant.
C'est vivant.
À demain. Merci à
Avec
vous,
plaisir.
Gabriel Gringlet.